situations de tension et exploiter notre énergie de façon constructive. Discuter du problème avec la personne concernée est évidemment un autre moyen d'action efficace pour retrouver l'harmonie. Le fait d'être en conflit nous enlève ces moyens précieux, car ce sont souvent les personnes auxquelles nous accordons de l'importance qui sont impliquées dans le problème ou seraient concernées par les solutions.
Les solutions au stress.
Les solutions généralement proposées se répartissent en trois groupes : les techniques isolées, les méthodes de gestion de stress et les méthodes préventives. Dans la plupart des cas, on propose une combinaison d'au moins deux de ces trois groupes.
1. Les techniques isolées.
Plusieurs méthodes simples sont bien connues. La plupart des gens qui veulent diminuer leur stress recourent à quelques-unes de ces techniques. En voici une liste sommaire. La relaxation, yoga, massage, détente, hypnose, méditation transcendantale, l'humour et les distractions, la rationalisation, se raisonner, évaluer le fondement de ses craintes, pensées positives, l'alimentation, éviter tous les excitants et stimulants, régime de vie, éviter toutes les situations excitantes, particulièrement en soirée, exercice physique, surtout aérobique. En général, ces techniques sont peu efficaces pour régler un problème de stress, car elles s'attaquent essentiellement aux symptômes et non aux causes du stress. Les spécialistes ne les recommandent que pour compléter les effets d'une autre méthode. Seule exception, l'exercice physique intense. Ce moyen est efficace immédiatement et par lui-même parce qu'il exige la dépense d'énergie nécessaire en réponse à la mobilisation générale de l'organisme. Un sport violent ou un exercice d'aérobic correspondent à la réaction de combat ou de fuite commandée par notre organisme. Mais il s'agit d'une solution temporaire. Il faudra corriger plus tard la situation qui provoque la mobilisation.
2. La gestion du stress.
Les méthodes de gestion du stress visent à faire plus qu'en éliminer les symptômes. Elles partent généralement du principe selon lequel les facteurs de stress existent objectivement et que c'est la situation qui est effectivement stressante. Le stress devient un fait inévitable avec lequel il faut apprendre à vivre et qu'il faut garder dans des limites tolérables. C'est donc le niveau de stress qu'on cherche à contrôler. Les techniques isolées, voire précédemment, sont utilisées pour maintenir l'intensité à un niveau raisonnable. On fait particulièrement appel à l'examen objectif de la situation et à l'information, rationalisation, pour aider la personne stressée à reprendre une certaine maîtrise sur la situation.
3. Les méthodes préventives.
Contrairement aux précédentes, ces méthodes s'appuient sur le désir d'éliminer le stress, plutôt que de vivre avec. On cherche à rétablir un équilibre sain dans l'ensemble de la vie de la personne stressée. On insiste sur la nécessité de changer son mode de vie, afin de lui en faire adapter un qui corresponde mieux à ce qu'elle peut tolérer harmonieusement. Cette approche est la plus souvent utilisée avec des personnes qui ont souffert d'épuisement professionnel, burn-out. Elle est particulièrement pertinente dans ces cas parce que ces personnes ont dépassé les limites de leur résistance à un point tel qu'elles sont devenues incapables de revenir à leur ancienne façon de faire. Elles ont développé une intolérance à la pression. C'est l'occasion de revoir l'ensemble de l'organisation de leur existence afin qu'elle soit viable à long terme.
Ma solution préférée.
D'après mon expérience personnelle et ce que j'ai observé chez mes clients, il me semble que la meilleure solution au stress s'appuie sur deux piliers essentiels. 1. Une bonne utilisation de la réaction d'urgence, gestion de soi. 2. Et une bonne utilisation de l'information fournie par nos réactions et nos émotions, gestion de la situation. Cette façon de faire est différente de ce qu'on appelle généralement la gestion du stress, même si elle en intègre plusieurs des éléments essentiels.
Gestion de soi.
Pour empêcher le stress d'apparaître ou de s'amplifier, il est important de permettre à la mobilisation de notre organisme de déboucher sur l'action pour laquelle elle nous prépare. L'adrénaline doit servir à l'action. La réaction de notre organisme nous prépare à fuir ou à affronter le danger. Il faut que cette bataille ou cette fuite ait lieu pour que notre équilibre soit rétabli. Si cette action vigoureuse et intense a lieu, le stress sera remplacé par le plaisir et l'excitation. C'est par cette intensité dans l'action qu'on élimine la cause principale du stress, la retenue et l'inhibition qui empêche l'adrénaline de jouer son rôle.
2. Gestion de la situation.
C'est la dimension préventive de la solution au stress. En tenant bien compte de ses réactions, on peut apporter à sa situation les ajustements nécessaires pour la rendre viable, acceptable et même satisfaisante. La personne qui procède ainsi ne souffre jamais de stress chronique, car elle trouve des solutions bien avant que le problème ne prenne trop d'ampleur. Il faut 4 ingrédients pour réussir cette recette miraculeuse. 1. Accueillir l'information. 2. Prendre les décisions nécessaires. 3. Faire une expression suffisante. 4. Évaluer le plaisir.
Accueillir l'information.
Il est essentiel, pour empêcher les situations d'exercer sur nous une pression excessive qui se transformera par la suite en stress, de prendre conscience des messages d'alarme de notre organisme. La tension, l'anxiété, la fatigue, le manque de concentration sont des réactions qui doivent être prises au sérieux. Il s'agit d'indicateurs qui nous signalent que notre situation manque d'équilibre. Si de telles réactions deviennent durables, il est grand temps pour nous de nous inquiéter et de chercher comment nous pouvons en tenir compte.
Prendre les décisions.
Devant les indices que nous donnent les réactions précédentes et les sentiments qui nous habitent, il est important de faire des choix pour changer la situation. Ces décisions n'ont pas pour but d'éliminer les aspects intenses de notre vie parce qu'ils pourraient devenir stressants à force d'être excitants. Elles ont pour but de retrouver un équilibre rompu en distribuant mieux notre énergie. La plupart du temps, il s'agit de rétablir un équilibre plus harmonieux entre nos besoins personnels et les exigences de la tâche ou les responsabilités que nous choisissons d'assumer. Toujours, il vaut mieux répartir notre énergie et notre investissement entre ce que nous voulons ou recherchons pour nous-mêmes et ce que notre milieu, travail, famille, amis, attend de nous. Ces décisions ne sont pas toujours faciles. Il s'agit la plupart du temps de choix à faire entre plusieurs désirs, plusieurs dimensions de ce que nous voulons. Mais lorsque ces besoins et aspirations entrent en contradiction, il devient nécessaire d'établir des priorités, de décider de ce que nous allons privilégier et de ce que nous sacrifierons. Ne pas faire ces choix, cela revient à décider de nous négliger nous-mêmes pour répondre aux attentes de notre entourage, ou pire, pour tenter, en vain évidemment, de correspondre à une image illusoire de nous-mêmes.
Faire l'expression suffisante.
Cette expression peut prendre plusieurs formes. Il s'agit de l'action expressive qui concrétise, face aux autres, les choix que j'ai faits. C'est d'accomplir les gestes qui concrétisent mes décisions autant que réagir ouvertement aux pressions et demandes de mon entourage. C'est prendre ouvertement la place et l'importance que je m'accorde dans ces choix. Cette expression est très importante, même si on en parle peu souvent dans les textes consacrés au stress. Elle est en effet l'un des pas les plus importants dans la démarche qui mène à une solution réelle et durable au changement global du mode de vie qui est nécessaire pour résoudre un problème de stress. C'est à travers cette expression et ces actes concrets que nous implantons effectivement dans notre vie le changement nécessaire.
Évaluer le plaisir.
Comme nous l'avons vu depuis le début, le stress naît dans les situations intenses et urgentes. Si on parvient à jouir de cette intensité en demeurant actif et vivant dans les situations qui pourraient être stressantes, on ne souffre pas de stress. C'est alors le plaisir d'une vie vécue intensément qui prend toute la place, comme dans l'exemple de Paul, le journaliste. La connaissance de cet aspect permet de nous servir du plaisir comme d'un outil d'évaluation du succès de nos efforts. En accueillant les indices fournis par nos émotions, en faisant des choix qui tiennent mieux compte de nous, en accomplissant ouvertement les gestes qui en découlent, on devrait atteindre un état psychologique différent. La situation oppressante doit normalement devenir intéressante, stimulante, chargée de plaisir intense. En utilisant ce plaisir comme critère, nous obtenons un guide sûr qui permet de savoir que nous vivons harmonieusement une situation de pression, que nous vivons notre stress de façon positive.
Conclusion.
Nous avons besoin d'une meilleure compréhension des mécanismes qui créent le stress et de ceux qui permettent d'y trouver des solutions efficaces et durables. Grâce à elles, nous pouvons empêcher que les exigences de notre tâche ou la lourdeur de nos responsabilités n'aient sur nous un effet destructeur. Il n'est pas toujours possible de répondre aux sollicitations de la situation sans que ce soit au détriment de notre santé et de notre équilibre. Si en utilisant les moyens les plus efficaces, nous ne parvenons pas à transformer en plaisir l'intensité d'une situation d'urgence durable, il est important d'envisager la possibilité de refuser de se conformer aux exigences de cette situation. Il arrive en effet que ce soit les pressions de l'environnement qui constituent le vrai problème. Ce n'est pas parce que notre patron, nos collègues, notre conjoint, nos enfants ou nous-mêmes attendons quelque chose de nous que cette performance est forcément réalisable. Il faut aussi savoir dire non lorsque c'est nécessaire.
Questions et réponses. Être traumatisé par la télévision. En constatant les faits sur moi et plusieurs autres des reportages télévisés concernant l'attentat du 11 septembre à New York, je me demande s'il est possible de souffrir d'un choc traumatique ou même de troubles post-traumatiques après avoir vu ces images et écouté les nombreux reportages qui ont suivi. Peut-on souffrir de stress post-traumatique lorsque les événements horribles ont eu lieu à distance et lorsque notre vie n'a pas été directement menacée? Est-ce différent s'il s'agit d'un film? Pouvons-nous être traumatisés par un film d'horreur dont la base est strictement fictive?
Globalement, on peut dire que tout cela dépend de la réalité subjective plus que des faits objectifs. L'exemple de l'enfant qui fait des cauchemars après avoir été impressionné par une histoire l'illustre clairement. C'est parce qu'il a considéré les événements de l'histoire comme réels qu'ils ont eu un impact important sur lui et qu'il fait un rêve dont la fonction est d'évacuer ses réactions à ce choc. Il ne s'agit pas non plus de savoir si on avait raison d'avoir peur. Ce qui importe, c'est qu'on ait réellement peur. Que le danger soit immédiat et physique, ou qu'il soit imaginé, n'est pas l'élément le plus important. Ce qui compte avant tout, c'est la façon dont on a traité ses émotions devant ce qu'on perçoit comme une menace. La personne qui est restée saisie, intensément impressionnée, mais paralysée ou sans moyen d'expression, c'est elle qui risque le plus de subir des séquelles importantes. C'est le fait de ne pas avoir exprimé ses réactions et de ne pas avoir trouvé de moyen de les évacuer qui continue de l'empoisonner psychiquement, même après la fin du drame et parfois même lorsque les événements sont apparemment oubliés. Il vaut mieux adopter une approche pragmatique face à ce genre de situation. Si nous restons hantés par des images, quelle qu'en soit l'origine, si elles s'imposent à nous de façon répétitive, peu importe comment, si nous restons sur le qui-vive après que le danger est passé, ou si nous demeurons anormalement neutres comparativement à ce qui est notre style habituel, il faut considérer qu'il y a un problème à résoudre, une expérience à digérer et à assimiler. Que le terme « désordre de stress post-traumatique » s'applique ou non ne change rien à la nécessité de s'en occuper. Les séquelles peuvent être importantes si on néglige de faire le travail nécessaire. Il est sage de demander une aide professionnelle si on reste hanté par le souvenir d'événements qui nous ont fortement impressionnés. C'est vrai, même si ces événements ont eu lieu très loin de nous ou lorsqu'ils sont fictifs. C'est leur impact sur nous qui est le critère à considérer. Mais il arrive souvent que la distance physique nous permette de mieux nous protéger et à atténuer l'effet de choc.
Vivre avec une personne stressée. Comment fait-on pour vivre avec des personnes stressées? On a beau ne pas être stressé soi-même, il n'en demeure pas moins qu'elles dégagent une attitude stressante, surtout si elles réagissent de façon négative ou agressive.
Parfois, on croirait que le stress est contagieux. Il suffit d'être en présence d'une personne très tendue pour devenir nous-mêmes tendus. Il n'est pas facile alors de trouver une solution pour éviter de devenir stressé. Je crois que ce phénomène se manifeste dans deux genres de situations. il y a les situations où on se met à craindre les réactions impulsives et violentes de la personne stressée, et celles où nous sommes simplement contaminés par la tension de l'autre. Les solutions ne sont pas les mêmes. Lorsque je crains les réactions violentes de l'autre, je suis moi-même en situation d'urgence. Une menace existe dans mon environnement et je me mobilise pour y réagir, par la fuite ou le combat. Je risque alors de devenir moi-même stressé, non pas parce que l'autre est stressé, mais parce que sa façon de réagir à son stress me menace. C'est mon stress que je dois résoudre par les moyens normaux qui sont mentionnés dans ce chapitre. Accueillir l'information, faire les choix nécessaires, transformer l'attention en action expressive et utiliser le plaisir comme critère de succès. Généralement, la réaction de fuite